Commençons cette liturgie. Oh, il faudrait commencer par un invitatoire. Est-ce que vous vous rappelez encore le psaume 83 qui se situe dans la vallée du Baumier ou du Micocoulier, là, précisément à l'endroit où nous sommes, au nord de la ville de la vallée de Hinnom, du côté de la porte de Jaffa, le paysage que nous avons maintenant sous les yeux. C'est là qu'on a commencé. C'était la dernière étape des pèlerins lors de la fête de Soukhot qui se préparait à l'expérience de la rencontre. Seigneur Sabaoth, vous rappelez mon cœur et ma chair se mettent en route, cri de joie vers le Dieu vivant. Heureux les habitants de ta maison, heureux les hommes qui gardent au cœur les montées, quand ils passent au Val du Baumier, etc. Vous relirez, si vous ne l'avez pas encore fait, ce psaume 84 qui pourrait servir d'invitatoire. Mais ici, nous sommes aux premières vêpres. Comme les grandes fêtes, on commence par les premières vêpres. Il y eut un soir, il y eut un matin. Et alors ici, tout nous parle de David. Dans son enfance, le petit David qui était de Bethléem, là-bas à droite, vous rappelez, fait expérimenter les pouvoirs thérapeutiques de la musique en allant jouer du kinnor. Si vous voulez savoir ce que c'est qu'un kinnor, regardez sur votre carte le lac de Kinneret, que nous avons vu en Galilée. C'est une espèce de harpe. Roi Saül faisait des crises de neurasthénie et David faisait la route comme ça, la route sur laquelle nous sommes. Peut-être que l'hôtel King David qui est là, c'est pas un lieu saint, mais nous évoque aussi la présence de David. Et alors le petit David, quand il était enfant, au fond du trou, là-bas, voyez, au fond du trou, il apercevait une ville qui avait échappé à la conquête, qui appartenait toujours à une espèce de Cananéen qu'on appelait les Jébusiens. Ça devait heurter son amour propre. Alors vous relirez toute l'histoire de David. Quand il arrive au pouvoir, vous vous rappelez, on a déjà raconté l'histoire avec les Philistins, lorsqu'il a assuré son pouvoir ici à Jérusalem, son premier acte, ça a été d'aller chercher l'Arche d'Alliance, qui était en panne à Kiryat Yarim, après la grande crise que nous avons racontée là-bas à Silo. Lorsque l'arche était prise par les Philistins, elle est revenue et puis elle était en panne à Kiryat Yarim. Alors il faut vous rappeler ce que c'était que l'arche d'alliance. Il faut rappeler l'expérience de les buissons ardents, la montagne ardente et puis Sion. La rencontre par Moïse, personnelle avec Dieu dans le buisson ardent, le peuple collectivement qui rencontre Dieu au pied de la montagne embrasée, et puis comment l'arche d'alliance transporte étape par étape, selon que la nuée se lève ou s'abaisse, cette expérience de la rencontre à Jérusalem, le lieu que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. Et la dernière étape, c'est celle qu'il nous a racontée dans le deuxième livre de Samuel. Tenez, rien ne remplace la lecture des textes. David rassemble tout Israël et s'étant mis en route, ils partirent pour Bala de Juda, ou Kiryat Yarim, c'est la même chose. Une ville qui est à la frontière de Juda et de Benjamin. On l'appelle dans Kiryat Yarim, une ville de la confédération gabaonite qui avait été intégrée dans la tribu de Benjamin. Et puis, comme c'est à la frontière avec Juda, on dit l'un ou l'autre. On y passera, Kiryat Yarim. Afin de faire monter de là l'arche de Dieu qui porte le nom du Seigneur Sabaoth, siégeant sur les kéroubes. On charge l'arche de Dieu sur un chariot. Alors là, il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe après. Hein. Vous vous rappelez, on a lu ça dans le désert, là, l'arche est faite pour être portée sur les épaules des Lévites, hein, la mettre sur un chariot que les Philistins fassent ça, mais que les Israélites. Alors là, il ne faut pas s'étonner de ce qui se passe. Bah, Ouza là est frappé, est foudroyé par. Il touche l'arche. Alors David a peur et il ne voulut pas conserver l'arche de Dieu chez lui dans la cité de David. Il la conduisit chez Obed-Edom de Gath et l'arche de Dieu demeura 3 mois chez Obed-Edom de Gath. C'est une petite parenthèse ici. Combien de temps la Sainte Vierge est-elle restée chez le prêtre Zacharie là, au temps de la visitation?
3 mois.
Exactement comme l'arche. Hein. Lisez le Père Laurentin, c'est pas par hasard. De même que l'Annonciation reprend la grande iconographie de la demeure qui est achevée, la plénitude des temps, et puis de la nuée lumineuse, et puis de la présence divine, et bien de même, l'arche se met en route, l'arche au plein sens du mot, c'est la Sainte Vierge, et le précurseur, vous voyez, Jean-Baptiste, danse dans le ventre d'Élisabeth, comme David, dansait devant l'arche, et ceux qui étudient le grec qui est en dessous de l'hébreu, là, voient c'est le même mot, c'est l'hébreu qui est en dessous du grec plutôt. Il faut savoir tout ça, c'est devenu évident. Laurentin n'est pas le premier à l'avoir découvert, mais c'est lui qui l'a peut-être le mieux formulé pour un français. Il a écrit il y a déjà longtemps un livre qui s'appelle Luc 1-3, quelque chose comme ça, et il a fait un livre plus important après. Bon, alors David se rassure et puis il va chercher l'arche. Il fit monter l'arche de Dieu de la maison d'Obed-Edom à la cité de David en grande liesse. Quand les porteurs de l'arche eurent fait 6 pas, ils sacrifiaient un bœuf et un veau gras. David dansait en tournoyant de toutes ses forces devant Dieu. Il avait ceint un pagne de lin. David et toute la maison d'Israël faisaient monter l'arche en poussant des acclamations, en sonnant du cor. Or, comme l'arche de Dieu entrait dans la cité de David, la fille de Saül, Michal, regardait par la fenêtre. Et elle vit le roi David qui sautait et tournoyait devant Dieu, et dans son cœur elle le méprisa. Il y a une querelle de ménage qui s'ensuit, et puis David se brouille avec Michal qui n'a plus d'enfant. Il dit, c'est devant Dieu que je danse. Michal, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Alors on est ici sur le trajet. Le Kiriath Yearim est à l'ouest. Si on suit les coordonnées topographiques, la ville de David est là-bas, ça n'a pas dû passer loin. Et nous avons dans cet événement, ce qui donne à Jérusalem cette signification qui se projette jusqu'en éternité. Et au fur et à mesure qu'on va progresser dans l'histoire, ça devient de plus en plus le lieu au singulier que Dieu a choisi pour y faire habiter son nom. Alors après ça, vous avez une histoire. Il y a un beau jour, David, qui s'était déjà bien installé dans une maison de cèdre, se dit quand même, moi je suis bien installé, et l'arche de Dieu est toujours sous l'étoile, sous la tente, dans les cordages. Alors il fait part au prophète Nathan du projet qu'il a de construire une demeure à Dieu. Et le prophète commence par l'encourager, mais la nuit, le prophète reçoit de Dieu la consigne d'aller dire à David, tu veux me faire une maison? Moi je préfère le camping, comme à la BST. Je n'ai jamais demandé à personne de me faire une demeure, je préfère voyager comme ça, dans le précaire, sous la tente. Et alors il y a ce jeu de mots extraordinaire, c'est moi qui vais te construire une maison. Vous voyez le jeu de mots? C'est que d'une part, la maison c'est peut-être la construction, le temple qui de fait sera construit par le successeur de David, Salomon, mais ça peut signifier qu'en français, la maison des Bourbons, la maison des...
La dynastie,
vous voyez. Et alors ça progressera sous cette deuxième signification, et relisez des récits de l'évangile de l'enfance dans Saint-Luc, il héritera du trône de David son père, et son règne n'aura jamais de fin. C'est pas le petit David qui joue. Alors, c'est moi qui te bâtirai une maison, une sorte de magnificat, puisque c'est comme ça, dit David, accomplis tes promesses. Alors,
Et c'est une alliance que Dieu fait avec la maison de David, tout à fait gratuite. C'est
gratuitement.
Purement gratuite.
Gratuitement. Je crois que c'est dans le prolongement des alliances précédentes. C'est toujours la même. Alors, vous vous rappelez du péché de David? Qu'est-ce qu'il a fait comme péché, David?
Il y a Bethsabée, oui.
Oui, mais il en a fait un autre.
Pour Saint-Simon.
Ah oui, il a fait des statistiques. Et ça, vous savez qu'il y a 3 degrés dans le mensonge, c'est pas moi qui le dis, c'est un certain Israélien, un anglais d'origine, comme son nom l'indique, juive. Il y a 3 degrés dans le mensonge, il y a le mensonge, il y a le parjure, il y a la statistique. Et le bon Dieu n'aime pas les statistiques. Il n'est pas qu'on se retourne en arrière, on se retourne en arrière que pour aller en avant, pas pour se complaire dans le passé. Si on veut faire des placements sûrs, il faut faire des placements d'éternité. Et les saints ont fait des œuvres apocryphes, plutôt pas apocryphes, mais comment est-ce qu'on dit ça? Là, après leur mort. Là.
Posthume,
décidément. Alors cette histoire, c'est très curieux, est racontée tout à fait à la fin des élus de Samuel, dans les appendices, comme si on avait oublié de mettre quelque chose. Alors on s'aperçoit que quand même, ça peut être important. Alors on le met dans le sac avant de le boucler. Vous voyez, l'histoire de l'achat de l'air d'Ornan le Jébuséen. Il y a David qui a la drôle d'idée de faire le recensement. Alors Joab dit, quelle drôle d'idée, tu vois, enfin il obéit.
Joab qui est le général,
général
de ses armées.
Chef, c'est ça, il parcourt tout le pays de Dan à Beersheba, même tout le grand Israël de l'époque, il rapporte le chiffre, et puis David sent son cœur battre, il sent qu'il a fait quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Et alors Dieu lui dit de choisir 3 châtiments, ou bien de fuir devant ses ennemis, ou bien la famine, ou bien la peste. Et David choisit la peste parce qu'il dit, il faut mieux tomber entre les mains de Dieu que dans les mains des hommes. Les hommes, on ne sait jamais, mais Dieu... Et alors que le fléau s'abat sur Jérusalem, il monte, il faut comprendre ça par ses pieds. La ville de David est au fond du trou. Et alors il monte sur une montagne là qui domine le paysage, et maintenant la mosquée d'Omar, l'emplacement de l'air d'Ornan le Jébuséen. Et puis alors il achète à Arona, qui était un Jébuséen. Il ne veut pas l'avoir pour rien, il veut pas offrir des sacrifices qui ne lui coûtent rien. Et alors il offre des sacrifices là, et Jérusalem est sauvée de la catastrophe, du fléau à cause de ça. Alors chose curieuse, quand on rédige l'histoire, bien longtemps après, au temps des chroniques, autour de l'exil, ce chapitre qui est à la fin, de livre de Samuel, qu'on ait mis là comme ça, comme si on, sans se rendre compte de sa signification, devient central dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 21. Et la Bible de Jérusalem a raison de mettre le titre « Vers la construction du temple ». Voyez, on se rend compte au fur et à mesure que le temps se déroule de l'importance de l'événement. Et ça n'apparaît plus du tout comme quelque chose de contingent, d'accessoire. Ça apparaît dans le plan providentiel comme un événement capital. Voyez. Et alors, chose curieuse, ben, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, hein, le temple de Salomon est construit, mais c'est David qui a tout fait. Bon, Salomon a laissé, en fin de compte, à la fin de sa vie, un assez mauvais souvenir. Et alors, on remonte à David. Enfin, David a tout préparé au haut lieu de Gabaon. Et alors, Salomon n'a fait que transporter, exécuter les plans de David. Et alors, quand on va un petit peu plus loin, au début du deuxième livre des Chroniques, enfin, il y a ce passage suivant. Au début de son règne, Salomon se rend au haut lieu de Gabaon, où était la tente du rendez-vous de Dieu faite dans le désert par Moïse, serviteur de Dieu. La petite note là est très bien faite. J'aime beaucoup les notes de cette édition Formomicède de la Bible de Jérusalem. C'était fait par le père de Vaï, hein, qui a fait un travail ingrat mais extrêmement minutieux. Il a décanté toutes les notes souvent trop lourdes d'érudition des grosses éditions scientifiques de la Bible de Jérusalem. Il a décanté l'essentiel. Et alors il y a une petite note ici admirable. Hein. Le chroniste s'écarte du récit du premier livre des rois pour rattacher le culte du temple aux institutions mosaïques. Voyez-vous, au fur et à mesure qu'on avance, on passe de Salomon à David, de David à Moïse, et c'est pas fini. Bon, on va passer à Abraham et au mont Moria. Au chapitre 3 du livre des Chroniques, vous savez, Salomon commença alors la construction de la maison de Dieu. C'était à Jérusalem, sur le mont Moria, où son père David avait eu une vision. C'était le lieu préparé par David, l'aire d'Ornan le Jébuséen. Petite note encore du père de Vaï. Ici, au mont Moria, David est relié à Abraham par de l'homme Moïse.